Europe 1, circuit court. Un autre regard sur l'économie.
Et circuit court, c'est tous les jours sur Europe 1 jusqu'à 14h. Une émission que vous pouvez suivre en vidéo sur Europe 1.fr, mais encore mieux en Facebook Live sur la page Facebook d'Europe 1. Ça veut dire que vous pouvez commenter, poser vos questions. N'hésitez pas, c'est avec Anne Le Gall et Maxime Switek.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Quel est le programme du jour?
On fleurit nos balcons et on fait pousser des plantes dans de tout petits espaces aujourd'hui, dans de petits carrés de terre, des bacs, des pots de fleurs. Avec de la technique et de l'imagination, nous allons voir qu'il est vraiment possible de rendre la ville plus verte. Deux experts sont avec nous pour en parler, un grand architecte et un jardinier urbain militant.
Deux autres rendez-vous dans cette émission, le portrait. Bonjour Cyril Ariel.
Bonjour Maxime Switek, bonjour à tous.
Vous nous présentez qui aujourd'hui?
Un photographe engagé pour la cause notamment des sans-abri, il s'appelle Marc Melki.
Et puis le coup de main juste avant 14h, il sera pour Soazic Barthélémy, l'une des candidates en lice pour les trophées de l'avenir Europe 1. Elle est la fondatrice d'une ONG qui accompagne les femmes dans les pays en voie de développement.
Et pour réagir durant l'émission, il y a bien sûr Internet et les réseaux sociaux. On attend vos messages sur Europe 1. Et sur Twitter avec le hashtag E1CC. Soyez les bienvenus dans Circuit Court. Bonjour Manal Jrajdi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de l'invitation.
Vous êtes architecte, ancien collaborateur de Jean Nouvel et désormais à la tête de l'agence OXO. Vous avez des projets très concrets pour développer la place de la végétation en ville. Un point essentiel quand on sait qu'en 2050, 80% des habitants de la planète vivront en zone urbaine. Vous avez notamment remporté le concours Réinventer Paris avec un projet d'immeuble pont couvert d'un millier d'arbres. On va en prendre plein les yeux, je le sens, et vous allez nous raconter tout ça. À vos côtés, nous accueillons aussi Hugo Meunier. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur de Merci Raymond.
Ah, merci Raymond.
Merci Raymond, un collectif voilà. De jardiniers et de créatifs déterminés à redonner la place du végétal en ville et dans les bureaux.
Et puis elle aussi est bien décidée à redonner ses droits à la nature. Voici Isabelle Saporta. Bonjour Isabelle.
Bonjour Maxime.
Le béton, le verre, comment vous répartissez la charge vous?
Ah ben moi je bouge rien contre le béton, mais j'aime bien le verre aussi. Non, mais vous savez que Rudy Ricciotti, le grand architecte, avait raconté tout le bien qu'il pensait du béton. Donc les choses sont toujours plus ambiguës et toujours plus ambivalentes que ce qu'on pense. Mais en tout cas, j'ai regardé avec beaucoup d'attention vos travaux, Manal Jrajdi, et j'avoue que je trouve que c'est assez génial parce que Anne l'a rappelé tout à l'heure. Effectivement, en 2050, on sera 9 milliards. Effectivement, comme elle l'a dit, 80% vivront dans les villes. Et or, les villes déjà aujourd'hui, c'est 80% des gaz à effet de serre. Donc il est urgent de trouver des solutions. Et j'ai trouvé que tout ce que vous racontez, tout ce que vous proposiez de tours, parce que vous dites en fait la solution est dans la verticalité, ce qui est presque un peu contre-intuitif, de tours qui seront végétalisées, qui seront nourricières, et ben j'ai hâte de vous entendre et d'entendre Hugo Meunier pour nous raconter tout ça.
Manal Jrajdi, il paraît que vous avez toujours rêvé de vivre un jour dans une forêt, dans une pièce avec une bibliothèque et quelques murs. Pour vous, la maison idéale a forcément une vue sur la nature et sur les arbres?
Oui, en fait, ça rejoint un peu mon enfance. Que quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient tous les week-ends à la forêt. Donc pour moi, c'est des sensations qui sont assez incroyables. De se balader dans une forêt, sentir la lumière qui traverse les arbres. Ça, c'est des sensations qui sont assez incroyables. C'est ce que j'essaie de remettre à chaque fois dans mes architectures. Mais au-delà de ça, c'est la conscience aussi de l'état de notre planète et que la nature, c'est aussi une réponse très concrète. C'est le matériau le plus engagé et le plus écologique qui existe et la technologie la plus parfaite. Donc c'est pour ça que travailler avec la nature comme matériau, plutôt comme élément décoratif, on fait en sorte que cette architecture est liée à la nature de telle sorte que elle devienne intelligente. Et c'est en ça que nos architectures qu'on développe à l'agence sont toujours liées à la nature, sont inspire, d'où cette réflexion sur le biomimétisme et comment faire que les architectures soient de plus en plus intelligentes et de plus en plus inspirées par la nature parce que c'est un médium qui est extrêmement naturel et surtout très intelligent.
Mais avant d'aller plus loin, votre projet de vivre dans la nature au milieu de la forêt, c'est...
Je cherche la forêt parfaite, l'endroit qui me permette de faire ça tout en étant lié à tout ce que je développe. Mais oui, c'est un rêve.
Ouais, c'est un rêve.
Alors effectivement, la végétation est très présente dans vos projets. Vous avez construit il y a 2 ans un lycée tout étagé en Champagne-Ardenne, un bâtiment qui épouse parfaitement la forme des collines. Il y a un immeuble avec de nombreuses terrasses qui doit être livré cette année à Montpellier. Et puis évidemment à Paris en 2022, il y a ce projet Milan arbre qui devrait voir le jour, une sorte de bâtiment pont. D'ailleurs, ça va ressembler à quoi ?
Oui.
Alors, 1000 arbres, c'est une ambition incroyable qu'on développe avec l'architecte Tsu Fujimoto et la compagnie de Fasbourg et Ogic. C'est le fait de créer le lien entre Paris et sa banlieue à travers une forêt, à travers un parc. L'idée, c'est de dire on va venir combler une partie du périphérique par un bâtiment. Et ce bâtiment-là sera le lieu de vie, de bureaux, d'hôtels, logements. C'est là où la ville verticale dont je parle souvent est concentrée et surtout des lieux de vie en lien avec la nature. Donc on aura une maison dans des arbres. Donc peut-être que ça sera
Peut-être que ça sera
l'opportunité d'avoir une des villas. Quand on est au-dessus, on a des petites maisons qui sont entourées d'arbres et on a une vue sur la Tour Eiffel, sur l'ensemble des bâtiments et monuments de Paris. C'est ça aussi, ramener la nature en ville, c'est à un moment donné ramener une qualité de vie pour les gens, parce que on se rend compte, c'est pas moi qui le dis, c'est des chercheurs, que plus on est proche de la nature, mieux on vit et plus heureux on est.
Est-ce que je peux être désagréable ?
Oui.
Non.
Allez-y,
non.
Je vous en prie.
Une maison dans Paris avec vue sur la Tour Eiffel au milieu des arbres, ça coûte à peu près 25 000 euros du mètre carré.
Non, vous vous trompez, c'est beaucoup moins cher que ça. C'est des prix entre 12 000 et 15 000, parfois 18 000.
Vous vous rendez compte que c'est très très cher.
Bah, c'est une moyenne parisienne. Hein, ouais. Vous regardiez, c'est un peu ce qu'on vend à Paris pour des immeubles où il n'y a quasiment pas cette qualité-là.
Donc pour le prix, autant rajouter les arbres.
Voilà.
Il y en aura un millier, effectivement, sur le bâtiment.
L'engagement, c'est d'avoir 1000 arbres. On en aura même un peu plus parce que les arbres, ça évolue. Il y en a qui se transforment, ainsi de suite. Et l'idée, c'est que ça soit 1000 arbres. C'est l'ambition de ce projet-là qui est dans une petite zone, qui est vraiment un vrai défi technique et technologique de pouvoir réaliser. Mais c'est un projet très ambitieux que la ville de Paris porte avec nous. Et on est très engagé dans ce rapport à la nature en ville.
Ça s'est déjà fait ?
Non. Par contre, il y a eu d'autres projets où on a travaillé sur la végétalisation, la verticalité, comme Bosco Vertical à Milan, où on a planté quelques arbres, je connais pas le nombre, mais plusieurs arbres sur une tour. Donc, c'est un mouvement. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Et donc, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Et je trouve ça plutôt bien cool que beaucoup de gens soient conscients aujourd'hui que les arbres, c'est pas juste une question de décoration. C'est aussi des îlots de fraîcheur. Il faut comprendre que quand on met que de la pierre, alors je dis Paris, c'est pas bétonné, c'est de la pierre. C'est vraiment de la pierre. Et contrairement à ce qu'on pense, la plupart des bâtiments sont construits en bois, à l'intérieur, en structure bois. Donc, mais il manque des arbres. Les arbres, ça ramène de la fraîcheur. Le fer au-dessus du périphérique, ça avait l'intelligence d'absorber tout ce qui est la pollution et de ramener de la qualité de vie. Donc c'est un peu l'ensemble de ça qui a amené un projet. C'est un peu notre réflexion de dire, quand on fait un projet, on travaille sur l'archéologie d'un contexte, c'est-à-dire comment faire renaître quelque chose qui existait avant. Et c'est vrai, dans l'enceinte parisienne, il y avait à l'époque beaucoup de plantations, et donc c'est ça qu'on fait renaître avec ce projet-là.
Hugo Meunier, vous êtes le fondateur de Merci Raymond et vous défendez aussi la présence des plantes en ville. Alors, vous pouvez nous rappeler qui est Raymond pour commencer ?
Alors, bonjour à tous. Raymond, c'est mon grand-père, agriculteur dans le sud-ouest et qui m'a inspiré dans mon projet de végétalisation des villes. L'enjeu, ça a été de se dire, effectivement, on manque de nature dans les villes. On est toute une génération qui n'a pas forcément connu cette nature. Cette jeune génération, on se réapproprie ces codes de la nature, on a envie d'y prendre part. Et comment y prendre part ? C'est finalement en agissant. Il y a eu tout un enjeu aussi de déringardisation du sujet, parce que dès lors qu'on parle de jardinage, on a l'image de ce grand-père aussi qui bêche ses tomates dans son jardin.
Et vous ressemblez à tout sauf à un grand-père qui bêche dans son jardin.
Exactement. Et fait, l'idée, c'est de se dire,
Madame Rajdi confirme.
On a tous la main verte, pour citer un ami, Stéphane Frisson, de se dire on a tous la main verte, c'est on est un peuple latin. Et en fait, dès lors qu'on fait mourir une plante, on va se dire ah, c'est pas fait pour nous. Alors qu'en fait, on a tous envie d'agir et jardiner devant chez soi, sur son balcon, dans sa rue, sur un toit, planter des arbres, c'est accessible à tous.
Et avec Merci Raymond, à condition d'avoir un petit peu d'espace quand même. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, aux citadins ?
Alors concrètement aux citadins, nous on propose, il y a plusieurs steps pour agir. Effectivement, il y a déjà ce qui est important
step,
à poser.
Vous l'écrivez comment ? S-T-E-2-P-E ou
Exactement, c'est un très bon jeu de mots. Mais l'idée, c'est de se dire, tout le monde peut potentiellement jardiner devant chez soi. Il y a des permis de végétaliser qui ont été mis en place par la mairie de Paris. Tout le monde a intérêt à ce que demain les villes soient plus vertes, et tout le monde s'accordera à le dire. Que ce soit les restaurateurs, que ce soit les architectes, que ce soit les promoteurs immobiliers, que ce soit les citoyens. Et par contre, c'est nécessaire de le savoir, cette végétalisation des villes va venir des citoyens. C'est-à-dire que demain, on a tous en tête ces belles 3D végétalisées de nos villes de demain. Il y a un rapport du MIT qui est sorti la semaine dernière qui explique que Paris est une des villes les moins végétales au monde. On est à 8,8% d'espace vert, là où Montréal en a 25%. Donc pour ce faire, soit on investit énormément d'argent et je pense que l'argent n'est pas encore là, soit demain on sort tous notre petite pelle, notre petite truelle et on va jeter et on va semer Paris parce que demain la révolution viendra des habitants puisque c'est un besoin qui émerge des habitants. C'est-à-dire que la qualité de la ville et de l'air, on le ressent. Et nous, on s'est beaucoup inspiré des Green Guerrillas dans les années 70 à New York, qui, du coup, de manière un peu sauvage, jetaient des seed bombs, qui étaient en fait une révolution verte. Et c'est ça. Voilà, exactement.
Europe 1, circuit court.
Le circuit court, c'est jusqu'à 14h sur Europe 1, une émission que vous pouvez suivre en Facebook Live sur la page Facebook d'Europe 1, avec beaucoup de témoignages et beaucoup de questions autour d'Anne Le Gall et Maxime Switek.
Émission consacrée à la végétalisation de nos villes, puisque nous sommes de plus en plus nombreux à y vivre. On en parle avec Manal Rajdi, architecte fondateur du cabinet OXO, qui défend la place du végétal dans le monde urbain, et Hugo Meunier, président fondateur de Merci Raymond. On a envie de hurler. Merci Raymond. Collectif de jardiniers et de créatifs qui propose donc d'aider les entreprises, les particuliers à faire pousser des plantes en bas de chez eux ou au bureau.
Et on a déjà beaucoup de questions pour nos deux invités. Alors d'abord, il y a Fan de Maxime qui nous pose une question.
C'est très gentil, Fan
c'est
de
pour,
Maxime.
C'est pour Manal Rajdi. Un immeuble 1000 arbres, avec 1000 arbres, ça va être araignée land, non? Qu'est-ce qu'on fait avec les insectes?
Alors, quand on amène la nature, forcément, il y a de la faune, il y a de la flore. C'est important aussi de se rendre compte que c'est ça aussi la biodiversité quand on crée des écosystèmes. Il faut accepter aussi que l'écosystème y ait des araignées. Alors, c'est araignées lentes, il faut pas exagérer, hein. C'est des systèmes qui sont traités, maîtrisés. Il y a des jardiniers qui s'en occupent, donc il faut pas avoir peur, hein, de la nature.
Alors, on a une question également de Martine sur Facebook qui est un peu énervée, hein, parce que vous avez raconté. Je vous lis son message. Ce monsieur ne connaît pas les arbres. Son projet est une mascarade, des arbres sur un toit. Quand on sait la profondeur de terre qu'il faut pour que l'arbre réalise sa photosynthèse et la quantité d'eau, on voit qu'il raconte n'importe quoi.
Alors, c'est sympa, ça. Oui.
C'est Martine.
Merci Martine
pour cette question très pertinente.
Mais oui, en plus,
nous avons
c'est
travaillé,
question.
Enfin, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Effectivement, on met de la terre pour ces arbres. On les met pas sur 50 centimètres. Il y a parfois 2 mètres de terre qu'on met dans les bâtiments pour pouvoir justement que ces arbres puissent avoir leurs racines. Et donc, il y a tout un suivi par des spécialistes. Donc, je rassure Martine, on maîtrise la technologie et on sait le faire.
On a entendu donc de toutes petites surfaces peuvent être exploitées pour faire pousser des fleurs ou des légumes. C'est ce qui se passe souvent dans les potagers partagés en ville. Les carrés de terre ne sont pas grands, mais ça change tout, comme le montre ce reportage d'Hélène Terzian dans le 12e arrondissement de Paris. C'est un petit espace vert au milieu de 9 bâtiments de 13 étages.
Exactement, c'est là, niché au pied des immeubles, que l'on retrouve un jardin d'un peu plus de 300 mètres carrés. Marie-Christine possède une des 45 parcelles et elle y passe au moins une fois par semaine.
Regardez les crocus qui commencent à pousser, c'est formidable.
Il y a même les primes verts qui sortent déjà, puis mon rosier. Je l'ai planté tout petit et il me dépasse, hein. Il fait donc plus d'1,53 m.
Face à ces plantes, cette infirmière de 54 ans en est même très émue. En jardinant, elle dit réaliser le rêve de sa mère. Et cette parcelle, même si elle ne fait que la taille d'une table de cuisine, pour elle, c'est énorme.
Il y a des fois, je suis seule ici, j'entends les oiseaux, même les mouches qui passent, enfin, tout est important. Vous faites attention à la petite fleur qui est en train de pousser, vous regardez la couleur des feuilles par terre, enfin, tout devient merveilleux. Pour moi, on n'est plus à Paris, hein, on est au paradis.
Et si tout cela est possible, eh bien c'est grâce à l'un des habitants de la résidence, Jean-Jacques Fasquel. Le Zorro en question a créé ce jardin il y a presque 10 ans.
Quand on habite en ville, quand on est élevé dans le béton, on a besoin de mettre ses mains dans la terre. Il faut que la nature reprenne sa place, reprenne ses droits. Tout le monde devrait faire ça dans son immeuble, hein, mais même si on a 20 mètres carrés, tout le monde est capable de planter quelques plantes aromatiques, quelques fleurs. C'est une respiration.
Aujourd'hui, une quarantaine de foyers partagent et entretiennent ce petit poumon vert. Pour les suivants, autant dire qu'il faut s'inscrire sur liste d'attente.
Voilà, reportage d'Hélène Terzian pour Circuit Court. On voit à quel point ça change la vie d'avoir un peu de vert autour de soi. Hugo Meunier, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier?
Alors, la réalisation dont on est le plus fier aujourd'hui, c'est à l'échelle de la Grande Borne. C'est une banlieue dans le sud de Paris, vers Grigny, qui est une banlieue bétonnée. Il y a que à taper sur Google la Grande Borne et on voit dès 8 ans le frigo vide, la drogue sévit, etc., etc. L'enjeu a été, à travers le végétal et à travers le prisme du jardinage, de redonner confiance aux habitants et aux urbains sur place. Et finalement, on est en train de concevoir avec eux un programme de revégétalisation sur les 3 prochaines années, d'en faire en fait la Green Borne. Ce serait un peu notre ambition. Et de se dire, comme il y a eu cette histoire des mamas qui allaient dans les bas d'immeubles pour pousser les dealers à partir de la cité. Là, l'idée, c'est de se dire, on fait date sur une cité dans le sud de Paris et on revégétalise une partie de ces lieux très bétonnés.
Manal Rajdi, dans quelle ville verte est-ce que vous aimeriez vivre ? Est-ce qu'il y a une ville qui vous fait rêver ?
Alors, il y a une ville qui a énormément développé, qui a beaucoup d'avance par rapport aux autres, c'est Singapour. C'est une ville qui est très verte, verticale, comme je l'imagine, la ville verticale, dense. Et comme vous le disiez, c'est contre-intuitif, mais la verticalité, c'est l'écologie, parce qu'on concentre dans un endroit très réduit un maximum de fonctions et de hauteur et on réduit. Et ça, ça a un rapport avec le nom de votre émission, Circuit Court, c'est-à-dire qu'on réduit un peu les échanges, on est vraiment dans une transmission entre les fonctions de manière très locale, et donc on se déplace moins, donc on consomme moins et on dépense moins. Et Singapour, c'est un climat surtout qui est assez incroyable, où la végétation est folle furieuse, elle est immaîtrisable, et c'est ça qui est génial.
Et votre projet Mille Arbres, il suscite encore des questions. Question d'Anissa dans ce studio.
Oui, alors j'ai une question concernant les racines des arbres, parce qu'on voit très souvent les racines des arbres qui abîment les trottoirs, qui les déforment même. Est-ce que là, les racines des arbres que vous allez planter sur l'immeuble ne risquent pas de déformer du coup la construction de l'immeuble ?
Alors non, justement, sur 1000 arbres, on utilise des espèces dont les racines ne sont pas comme des platanes, comme la référence à laquelle vous faites, ou des sapins qui ont des racines verticales. On utilise d'autres espèces qui ont des racines qui sont plus contrôlées, qui vont nous permettre justement de pas déformer ou attaquer le bâtiment.
La société Arcadis a dressé l'été dernier le palmarès des villes les plus écolos du monde. Alors en tête, on trouve Zurich, Stockholm, Genève, Vienne, Francfort, Wellington, Rome, Sydney. Au vu de cette liste, on se dit quand même que c'est un privilège de riche d'avoir une ville verte écolo. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
Bah, c'est une révolution en marche, hein. C'est une conscience aussi, c'est que les gens à un moment donné comprennent que notre climat est important, notre planète, c'est fini. On ne peut pas faire plus que ce qu'on est en train de faire, et donc il faut agir. Certaines villes s'engagent, beaucoup de villes comme Paris, comme des villes comme Nanterre, Villiers, Arcueil, où je travaille et je fais des projets, et ils veulent des villes plus vertes. Et donc c'est ça l'avenir, c'est qu'à un moment donné, la conscience, et ça arrive, comme vous le disiez avant, ça arrive par les citoyens, et à un moment donné, ça commence à se diluer vers les politiques et vers les actions politiques.
Merci Raymond, vous avez réussi à convaincre combien de citoyens ? Vous le savez à peu près aujourd'hui ?
Alors nous, depuis le début, on a fait un estimatif global, on a pu planter plus de 10 000 plantes dans les villes, en milieu urbain, et j'aurais aimé rebondir sur ce que disait mon cher ami, c'est de dire que on ne va pas demain adapter la campagne à la ville. En fait, on ne va pas adapter les villes à la campagne. L'enjeu de demain, ça va être de végétaliser à travers l'usage. On ne peut pas poser des plantes comme ça. Il faut que dans un quartier, ils aient envie aussi.
Alors, il faut nous donner un exemple. Ça veut dire quoi, végétaliser à travers l'usage ?
Végétaliser à travers l'usage, ça va être l'entretien derrière. C'est-à-dire qu'une ville qui est végétalisée sans entretien derrière, on n'aura aucune structure qui va tenir. Et donc, très rapidement, les habitants du quartier vont se sentir délaissés. Et ça va rapidement devenir un amas de plantes mortes. Donc c'est nécessaire derrière de réfléchir tout un plan de végétalisation.
Comment on réadapte des bâtiments anciens justement pour qu'ils supportent comme ça, pour qu'ils supportent le poids de la végétation ?
Ça, c'est une technique complexe. Hein. J'avoue que
vous n'êtes pas loin de dire que c'est impossible.
C'est pas que c'est pas impossible, mais ça demande des réaménagements qui sont beaucoup plus importants. Transformer un bâtiment haussmannien en un bâtiment végétalisé, ça s'est déjà vu. On travaille sur les façades, on travaille sur des techniques de végétalisation qui ont déjà été faites. Donc, c'est pas impossible, ça demande un peu de moyens, mais c'est pas impossible. Donc, c'est faisable.
Europe 1, circuit court.
Circuit court qui s'intéresse aux villes vertes aujourd'hui avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
On essaie de voir tout ce qu'on peut faire pour végétaliser nos villes. On en parle avec Manal Rajdi, architecte fondateur du cabinet OXO, et avec Hugo Meunier, président fondateur de Merci Raymond, un collectif de jardiniers et créatifs qui propose d'aider les entreprises et les particuliers à faire pousser des plantes chez eux ou au bureau. Et
Isabelle Saporta, qui est déjà habillée en vert, vous êtes encore plus verte qu'en début d'émission.
Mais je suis toujours plus verte, surtout quand je suis à vos côtés, Maxime, sachez-le. Mais en tout cas, j'ai trouvé très intéressant, et notamment j'ai trouvé très intéressant, Anne Le Gall, que vous fassiez finalement le porte-parole des grincheux, c'est-à-dire les grincheux qui nous disent en permanence, en fait, la ville végétalisée, c'est un truc de bobo. Or, je trouve que tous les deux, ce que vous avez apporté dans cette émission, c'est de nous montrer que c'est l'exact opposé. C'est-à-dire, vous, Manal Rajdi, vous nous dites, en fait, on est en train de, avec ce pont magnifique à 2000 arbres, de faire un pont entre Paris et sa banlieue, c'est-à-dire de faire du lien social. Hugo Meunier, pareil, c'est-à-dire qu'en fait, moi je me rappelle très bien, c'était hier ou avant-hier qu'on a reçu Guillaume Bodin sur son film Zéro Phyto. C'était effectivement les jardins partagés. Les jardins partagés, c'est du lien social. Quand il fait intervenir le maire de Grande-Synthe en disant, au fond, le meilleur moyen de recréer du lien social et de donner du pouvoir, pas d'achat, mais du pouvoir de manger à ces populations précaires, c'est de recréer du végétal. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui, le grand truc, c'est de dire c'est un truc de bobo, c'est tout sauf un truc de bobo. Vous rappeliez tout à l'heure, Hugo Meunier, qu'effectivement, on était la ville, aujourd'hui, Paris était la ville la moins végétalisée au monde. Je trouve ça très intéressant avec les intempéries qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que là aussi, on voit l'intérêt du végétal. Sur les inondations, on voit bien qu'à chaque fois qu'on a laissé tomber le végétal, à chaque fois qu'on a construit là où on était en terre inondable, c'est une catastrophe. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est une guérilla urbaine à mener pour que le végétal retrouve sa place et qu'enfin on comprenne que c'est nourricier, ça crée du lien social et c'est l'avenir. Moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, par contre, les politiques sont tout à fait conscients de ça aujourd'hui ou est-ce qu'ils font un peu de greenwashing ? Voilà.
Moi, je pense que de toutes les façons, ça ne viendra pas d'en haut, ça viendra d'en bas. Ouais. Je suis convaincu que c'est de toutes les façons, c'est la volonté du peuple qui va faire qu'à un moment donné, on va se rendre compte que les problématiques qu'on vit aujourd'hui, ce réchauffement climatique, il n'y a que nous qui pouvons agir. Et donc, cette volonté-là va faire qu'à un moment donné, les politiques vont se rendre compte que c'est une volonté populaire et c'est ça qui va faire que les gouvernements sont en train de changer. On voit tous les engagements des gouvernements, ça met du temps, mais cet engagement très citoyen va faire en sorte que ça ira plus vite. Ça, c'est un peu ma pure conviction.
Hugo Meunier, vous acquiescez.
C'est une très bonne remarque, puisque nous, le principe même de Merci Raymond, ça a été de se dire, on n'attend pas, on agit, et en fait, on prend part à cette révolution verte, et tout le monde est acteur de cette révolution verte. On a tous, finalement, une petite pierre ou une petite graine à semer dans les villes, et un des enjeux au début, ça a été de se dire comment on déringardise le sujet du végétal, comment on arrête de se dire, c'est effectivement un sujet bobo, écolo, ou alors on n'est pas dans un terrain marginal avec notre petit jardin partagé de quartier, mais en fait, tout le monde peut se saisir de la rue, tout le monde peut prendre part chez soi, sur son balcon, dans son bureau. Il y a des chiffres qui montrent que ça permet de réduire le taux d'absentéisme de 10%.
En mettant quoi, des plantes vertes ?
En mettant des plantes vertes dans un bureau. Ça permet de reconcentrer des personnes. Il y a des gens, aujourd'hui, on passe tout notre temps sur Internet, finalement. Le fait d'être constamment dans un monde un petit peu virtuel, on a besoin de se rattacher à des choses très concrètes. Et on se rend compte que la végétalisation apporte tant à la santé mentale que à la santé physique.
Et vous travaillez aussi, vous travaillez entre guillemets, sur des projets dans des bureaux, dans des...
Exactement, on a eu l'opportunité de revégétaliser tout Station F, le nouveau incubateur de Xavier Niel, dans lequel en fait le parti pris ça a été de se dire comment on fait pour que les innovations de demain soient plus vertes, puisqu'on a un énorme retard sur cette révolution verte, là où la révolution numérique depuis au moins 20 ans, 30 ans est à plein cœur. L'enjeu a été de se dire comment on fait, on va essayer de stimuler la main verte des innovateurs et donc on a offert 3000 plantes à 3000 startups. L'enjeu, c'était de se dire chaque startupper demain chez Station F pourra, avec son bureau, avoir sa petite plante et peut-être avoir une green conscience.
Et quel retour vous avez ? Est-ce que vous avez déjà des retours de ça ?
Écoutez, on est très contents puisque déjà, ils nous envoient des photos. Ah, merci, ma petite plante va bien. Donc, déjà, c'est que je pense que ça a eu son effet.
Combien de victimes parmi les petites plantes ?
C'est ça que j'ai pensé, moi aussi, j'avoue.
On a fait le nécessaire pour leur mettre des succulentes, des plantes qui nécessitent pas trop d'arrosage.
Cactus pour tout le monde.
Manuel Rech, je dis peut-être un mot sur ce dont parlait Isabelle Saporta, les inondations. Donc, on a vu les arbres, ça permet de lutter contre la pollution, contre la chaleur, contre les inondations. Il y a un rôle réel des arbres en ville.
C'est quand on met un arbre, ça absorbe, les racines permettent de retenir les terres. Il n'y a pas de démonstration à faire, c'est évident. Donc les villes, quand elles se végétalisent et qu'elles sont beaucoup plus vertes, réduisent. Alors les précipitations, c'est pas le contrôle, c'est un événement qui est beaucoup plus général. C'est la planète entière qui se transforme. On sent que j'étais il y a pas longtemps en Floride, eux ils subissent énormément les inondations. Ils comprennent aujourd'hui ce que c'est que le réchauffement climatique, même chez eux, certaines personnes ne sont pas à même d'accepter ça. Ils comprennent que ça les attaque. Ici à Paris, on n'a pas l'habitude. Donc, et ça commence à venir de plus en plus. Et on se dit pourquoi il y a plus d'inondations chaque année. C'était tous les 10 ans, maintenant c'est quasiment tous les ans. Et donc on se rend compte que cette conscience citoyenne va à un moment donné changer les choses. C'est-à-dire que si on agit tous, peut-être dans 20 ans, ça changera.
Manal Razi, on a encore des questions qui arrivent sur votre projet à mille arbres, qui visiblement intrigue beaucoup. On a une question, alors je l'ai évidemment perdue, elle était sur l'écran, elle n'est plus là, mais je vais vous la donner comme ça, sans le nom de l'auditeur qui nous demandait, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, par exemple, en cas de tempête de vent, les arbres qui
Michael.
Sont tout en haut.
C'est Michael.
Michael, voilà.
Ça.
Il n'y a pas de risque que les arbres tombent quand il y aura du vent. Question
non,
de Michael.
Parce qu'on prend toujours des précautions. On harnache, c'est-à-dire qu'on met des câbles qui tiennent les arbres dans le sol. Donc, ce qui fait que les arbres ne peuvent pas s'envoler.
Bon, ben voilà, j'espère que Mickaël sera rassuré.
Il est rassuré.
Il y a Marie qui vraiment s'interroge sur la quantité de terre qu'il faut sous les arbres. Elle se demande si on peut végétaliser les rues à cause du métro, puisqu'il faut quand même 2 mètres de terre.
Le métro est très bas, donc il n'y a pas d'inquiétude.
Il n'y
a pas d'inquiétude. Et souvent, ça vous remarquez que vous avez plusieurs volets avant d'arriver, donc c'est plutôt à 8 mètres, entre 6 et 8 mètres du sol, donc on a de la place pour planter.
Mais attendez, ça c'est une bonne question. Merci Raymond. Mais végétaliser le métro
et les métros partout. En France. Parce que
merci
effectivement,
Marie.
les souterrains de Paris sont très nombreux, les souterrains des grandes villes. Malheureusement, on peut pas planter en tant que tel à moins de faire de la culture sous LED.
Ouais.
Mais effectivement, il y a des champignons, des endives, de la spiruline.
Il
y a effectivement des super belles initiatives qui vont dans ce sens-là. Et la mairie de Paris, notamment dans le projet Pariculteur, a mis des souterrains à disposition. Et un des enjeux de demain, des parkings aussi, ça va être de qu'est-ce qu'ils en font. Et notamment, la RATP va dépolluer une partie des villes grâce à la spiruline qui absorbe une partie du CO2 urbain.
Europe 1, circuit court.
Circuit court jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Maxime Switek et Anne Le Gall.
Le portrait.
Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'un photographe engagé pour la cause des sans-abri. Il s'agit de Marc Melki.
Oui, d'ailleurs, ça fait 19 ans qu'il est un photographe indépendant. Il a commencé à publier des clichés, il appelle ça des reportraits, notamment dans la presse, dans Libération ou encore Le Monde, dans lequel il photographiait notamment des personnalités du monde de la culture. Jusqu'en 2012, où près de la place de la Bastille, il découvre des familles d'Europe de l'Est dans la rue.
Au bout de 3 mois, j'ai commencé à les photographier pendant leur sommeil. Pour moi, c'était important de montrer ce qu'il y avait de plus dur à voir, c'est-à-dire des femmes et des enfants dormir dans la rue, dans des cabines téléphoniques ou à même le trottoir.
Il a fait quoi par la suite ?
Eh bien, 2 ans plus tard, il a cofondé donc le collectif Exil Intramuros et il a lancé l'action Et si c'était vous, qui consiste à mettre des personnalités dans la rue et de poser entre guillemets comme des sans-abri. Alors on peut les voir dans des cabines téléphoniques ou encore dans des espaces autolibres. Son but, c'est d'alerter l'opinion et notamment les pouvoirs publics justement au problème de la grande exclusion. Dans ces 85 portraits, on peut y voir notamment Bruno Solo allongé dans une cabine téléphonique avec un bonnet bleu recouvert d'une couverture ou encore Pierre Arditi couché à même le sol dans une station Autolib à Paris. Et c'est justement grâce à toutes ces mises en situation choquantes qu'il souhaite notamment toucher les politiques.
J'ai l'impression d'un énorme silence, voire d'une indifférence. Pas des gens qu'on voit dans la rue, pas des gens qui passent devant. C'est plutôt une indifférence des réels, des pouvoirs publics. Là, bon, Macron est allé à Calais, mais il n'y a pas un mot pour les sans-abri qu'on voit dans la rue ou les 15 à 20 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles. Donc, est-ce qu'ils existent ? Est-ce que vous les voyez ? Est-ce qu'on les voit ? Moi, je crois que oui.
Et d'ailleurs, si vous y croyez vous aussi, car ils sont là, ces clichés, il les a regroupés notamment dans un livre et tous les bénéfices sont reversés à une association qui s'appelle le Droit d'urgence. C'est une association qui aide depuis plus de 20 ans avec des avocats, des magistrats ou encore des étudiants en droit, juridiquement toutes les personnes à avoir des droits, comme les migrants, les anciens détenus ou encore des prostituées.
Merci Cyrielle Ariel.
Europe 1, circuit court.
Juste avant 14h, nous donnons un coup de main tous les jours dans circuit court et cette semaine, nous vous présentons les 5 candidats qui sont en lice pour les trophées de l'avenir Europe 1 dans la catégorie trophée de l'engagement. Ces trophées, ils seront décernés lundi prochain et nous vous présentons donc aujourd'hui la fondatrice d'une ONG qui soutient la cause des femmes. Bonjour Soazic Barthélémy.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous avez fondé Empower pour aider les femmes à prendre leur avenir en main dans les pays en développement. Vous les aidez à monter leur entreprise notamment, c'est ça ?
Oui, c'est exactement ça. Donc Empower, c'est en effet une organisation qui œuvre à l'international mais aussi en France pour soutenir les femmes entrepreneurs dans leur parcours et dans leurs projets.
Comment vous aidez ces femmes concrètement ?
Alors, en fait, nous, on a observé qu'il y avait un certain nombre de freins et de barrières qui empêchaient les femmes soit de se lancer, soit de pérenniser une activité qui était déjà initiée. Et on trouvait que c'était vraiment une trop grande perte pour elles et puis pour aussi la société, hein, parce que c'était autant de valeurs sociales, économiques qui n'étaient pas créées. Et donc, du coup, on a souhaité agir en leur donnant accès à des formations, à des parcours de formation, à du coaching et puis à des réseaux. C'est des moyens, enfin c'est des ressources dont elles manquent très largement dans un très grand nombre de pays dans le monde et dont elles auraient besoin pour créer des entreprises qui soient pérennes.
Au-delà de la France, vous intervenez dans quel pays ?
Alors, on intervient dans une dizaine de pays en tout, en Afrique de l'Ouest notamment, en Côte d'Ivoire et au Niger, où on a deux centres que nous, on intitule nos Hub Empower, et qui sont en fait des centres où les femmes peuvent se rendre, se retrouver, travailler sur leurs projets et puis avoir accès à des parcours d'accompagnement. Sénégal également, Maroc, on est aussi présent en Amérique latine, au Pérou et puis en Asie, où on est déjà intervenu en Thaïlande et au Myanmar.
Et vous avez le sentiment que quel que soit le continent, quel que soit le pays, les femmes sont toujours confrontées aux mêmes obstacles ?
Oui, c'est des obstacles qui sont très similaires. Il y a un accès général limité aux ressources, que ce soit des ressources économiques, hein, financières, mais aussi à d'autres types de ressources, des réseaux, des communautés d'entrepreneurs, c'est le cas en France hein, aussi, et puis bah, des ressources intellectuelles, enfin, de la formation, du savoir entrepreneurial, que ce soit du savoir-être ou du savoir-faire, des techniques entrepreneuriales. Et alors, c'est pas les mêmes contextes économiques, c'est pas les mêmes contextes sociaux, mais il y a des difficultés pour les femmes entrepreneurs de manière, enfin, à l'échelle, oui, de la planète.
Et pourquoi soutenir en particulier la cause des femmes ? C'est aussi parce qu'elles sont en première ligne dans la pauvreté ?
Oui, c'est les premières qui sont affectées, et aussi parce qu'il y a aujourd'hui, et je pense qu'on en parle beaucoup, hein, des droits des femmes de manière générale, mais aussi des inégalités qui existent, et des inégalités économiques. Et aujourd'hui, dans le secteur entrepreneurial, il y a un vrai manque de femmes entrepreneurs, donc il y a moins de femmes. En France, c'est le cas, je crois que le chiffre encore aujourd'hui, c'est qu'on a une femme, enfin, on a un tiers de femmes entrepreneurs pour deux tiers d'hommes entrepreneurs. Donc, il y a des vrais freins à l'entrée. Et puis après, quand elles arrivent à se lancer ou quand elles ont créé une entreprise, il y a aussi des freins pour développer en termes de taille et en termes de structure les entreprises qu'elles ont créées.
Merci Soazic Barthélémy d'avoir été en direct avec nous dans Circuit Court, fondatrice de l'ONG Empower, E-M-P-O-W-H-E-R, on appelle tout aujourd'hui, et bonne chance évidemment.
Et bonne chance pour ces trophées de l'avenir européen qui seront donc décernés lundi prochain.
Absolument, demain dans Circuit Court, on va passer à table mais avec un menu sans viande. On va se poser une question, et si les végétariens et si les véganes avaient raison ? C'est la question un peu provoque qu'on va poser demain, et Cyril Ariel saute de joie déjà, je ne sais pas pourquoi.
On vous dira tout demain. Merci beaucoup Maxime, merci à toute l'équipe.